Journal de Saint-Nigarno. Je relève dans l'introduction des paroles magnifiques de Gilles Marcotte qui dit que cette ascèse du dehors, cette ascèse imposée par l'existence, je vous ai dit qu'il a souffert, j'ai commencé à vous parler des souffrances qu'il éprouvait dans ce manoir, mais Saint-Nigarno l'a reconnu pour tel, écrit Gilles Marcotte. Et il ajoute un texte de Saint-Nigarno. Dans mon aventure horrible, je ne puis m'attribuer la moindre parcelle de mérite ou de quoi que ce soit d'admirable. D'un bout à l'autre, j'ai été forcé, physiquement forcé. Je n'ai fait que reculer tout le temps, de retranchement en retranchement, jusqu'au dernier, au-delà duquel il n'y a que la possession, l'enfer ou la mort. Et Gilles Marcotte ajoute un seul choix pour Saint-Nigarno, la mort, Dieu. Il a choisi Dieu. Et il dit plus loin, Gilles Marcotte, « Si l'amour est impossible, la communion des saints ne l'est pas. » Et en citant Saint-Nigarno, il dit « Grande consolation de la communion des saints, à savoir quand on n'a pas l'habitude de la prière ou qu'on se trouve dans une sécheresse complète, que la prière que l'on arrive à réciter que verbalement sans lui donner son sens, voir son sens et l'offrir, est portée par d'autres à la perfection. » C'est une très belle conception, finalement, de la communion des saints. Ne pas se sentir seul dans sa solitude. Ne pas se sentir à plat quand il y a tant de gens debout qui nous tiennent. Il ajoute, de sorte que notre adoration, qui n'est que de bonne volonté, se réalise en effet par d'autres, et qu'ainsi nous participons, si obscurcis que nous soyons, à une réelle adoration de Dieu, réalisant ainsi notre destinée, le vœu de notre espérance. Que c'est beau ces textes de Saint-Nigarno. Hein? Et ce texte, dit Gilles Marcotte, tout uni et presque banal qu'il paraisse, est capital. Voilà la lumière, la force qui sont gagnées. Pour la première fois, Saint-Nigarno répond à la question de sa vie avec une puissante certitude qui dépasse le désespoir et n'offre plus de prise à l'illusion. Oh, je pourrais vous lire de belles choses qu'écrit Gilles Marcotte. C'est magnifique. Avec Pierre-Louis Flouquet, on peut dire sans hésiter que Saint-Nigarno, poète élu, a vécu une dure ascèse, une longue passion pour donner un sens à sa vie. Nous ne pouvons douter que dans la solitude, il ait cherché Dieu. Jean Lemoine, d'ailleurs, nous dit qu'il éprouvait avec une intensité extraordinaire l'irréductible nécessité de correspondre parfaitement à la grâce et à l'amour de Dieu, puis aux hommes, ses frères, aux choses, et enfin à lui-même, centre fragile d'un équilibre qu'il désirait ardemment. S'il s'est exilé dans la solitude, ce n'est sans doute que pour avoir compris le véritable sens de la vie, et non par démission, comme certains ont pu le prétendre. En 1941, Saint-Nigarno avait complètement cessé d'écrire. Il s'insère son message livré, mais il s'y tue. Et Saint-Nigarno avait rencontré la mort à 22 ans, à un âge où le plus souvent, cette pensée ne nous effleure même pas. Chaque jour de sa vie, il a attendu la mort, il l'a préparée. Résigné à la recevoir alors qu'il serait encore jeune. Il l'attendra pendant 9 ans. Toute son œuvre nous révèle qu'elle était devenue sa compagne habituelle. Cette attente s'est justifiée cruellement. Il est mort à l'âge de 31 ans, le 24 octobre 1943. Ce soir-là, il était parti se promener, selon son habitude, dans la campagne de Sainte-Catherine, pas très loin du manoir. Se sentant soudainement mal, il avait demandé de l'aide à une maison de ferme, puis il avait cru pouvoir se remettre en route. Mais avant d'arriver à destination. Eh oui. Et pour parler de la mort de Saint-Nigarno, on ne peut trouver de mots plus simples et plus pénétrants que ceux de Pierre Gélina. Même dans sa dernière mort, le poète s'est demeuré fidèle. Sur une grève qui n'est ni terre ni eau. C'est comme ça qu'il est mort, sur la grève. Son cœur a flanché. Et dans notre esprit demeureront toujours gravés ces vers de Saint-Nigernaud lui-même. Quelle attraction centrale peut empêcher qu'on s'échappe? Quel dôme de firmament concave qu'on le perce quand on a cet élan pour éclater dans l'au-delà? Quand on a cet élan pour éclater dans l'au-delà. D'ailleurs, dans ses poèmes, il y en a un qui est très beau pour une émission à Radio Ville-Marie, je vous le lis. Et je prierai ta grâce de me crucifier et de clouer mes pieds à ta montagne sainte pour qu'ils ne courent pas sur les routes fermées, les routes qui s'en vont vertigineusement de toi. Et que mes bras aussi soient tenus grand ouverts à l'amour par des clous solides et mes mains ivres de chair, brûlantes de péché, soient à te regarder, lavées par ta lumière, et je prierai l'amour de toi, chaîne de feu, de me bien attacher au bord de ton calvaire, et de garder toujours mon regard sur ta face, pendant que reluira au-dessus ta douleur, la résurrection et le jour éternel. » Comment est-il mort au juste? C'est Jacques Blais qui nous le raconte. Le dimanche 24 octobre 1943, Saint-Nigernaud dîne avec des amis de la famille. Après quoi, au début de l'après-midi, il passe quelques heures en compagnie de son cousin Oscar Lamère. Puis il part en canot de toile seul, chercher des effets à une cabane qu'il se construisait sur une île à quelques milles en aval du village. Le temps était plutôt maussade. À cette époque de l'année, la rivière était haute, le courant rapide. Garnaud dut avoir plus de difficultés que prévu à remonter le cours de la rivière pour entrer au manoir, et vers 4 heures, il frappe chez Joseph Boucher, un cultivateur du 4e rang ouest, rive sud de la rivière. Il reste sur la galerie, il refuse de franchir la porte moustiquaire. Il cherche à se dissimuler, comme s'il avait honte d'être vu. Il a l'allure hésitante d'un homme ivre. C'est son cœur qui faiblit. Il demande son chemin. La question surprend. Il vient très souvent dans les environs et même chez M. Boucher avec qui il aime à converser. Or, le renseignement obtenu, il retourne vers la rivière, sans doute reprendre son canot. Mais il fait sombre. Peut-être même a-t-il commencé de pleuvoir. Il porte une veste imperméable, kaki, comme en portent les soldats alors cantonnés à Valcartier. Au manoir, on l'attend pour souper. À mesure que les heures passent, l'inquiétude s'accroît. On finit par entreprendre des recherches qui seront bientôt interrompues par la nuit. Et le lendemain matin, l'oncle du disparu, de Saint-Denis Prévost, dont il tenait son propre prénom, de Saint-Denis, s'enquiert auprès des habitants de la rive sud des allées et venues de Saint-Denis-Garnaud. Il passe chez les Bouchers. Poursuit ses recherches encore plus à l'ouest chez les Gourdeaux, que connaissait bien Garnaud, et c'est là qu'au tout début de l'après-midi, le rejoint Lucien Boucher, et sur ses terres, près d'un ruisseau qui se jette dans la rivière, il vient de trouver Garnaud, Saint-Denis Garnaud, mort. Pauvre garçon, murmure de Saint-Denis Prévost, son oncle, et de suivre Lucien Boucher sur les lieux de la découverte, il est alors environ 2 heures. Ce lundi matin, s'en allant à l'école, les petits Patricia et André Houd avaient pris, comme d'habitude, un raccourci le long de la rivière et ils dirent à leurs camarades qu'ils avaient vu sur leur chemin un soldat endormi. Retour de classe, le midi, les enfants propagent la nouvelle qui parvient à M. Lucien Boucher. Intrigué, il veut en avoir le cœur net. Il se rend là où les enfants prétendaient avoir aperçu un homme étendu dans l'herbe. Il s'agissait bien de Garnaud, qui baignait en partie dans l'eau rare d'un petit ruisseau, qui descendait doucement, presque à la surface du sol, jusqu'à la rivière. À mi-chemin entre le corps et la berge, un aviron bien à plat sur le sol, sur la berge, renversé, le canot. On présuma qu'après avoir quitté les Bouchers la veille, Saint-Denis-Garnaud dut repartir en canot en direction du manoir, mais que par suite d'une fausse manœuvre, il tomba à l'eau. Il put revenir sur la berge, entreprit d'aller chercher du secours, s'appuyant sur son aviron qu'il n'eut bientôt plus la force de tenir. Il se traîna encore quelque temps, puis il aurait, semble-t-il, glissé sur des arbres morts et fait une chute dans le ruisseau. Il n'avait réussi qu'à parcourir une soixantaine de pieds depuis la berge, et quand on le trouva, ses vêtements étaient encore mouillés. Il avait les pieds presque gelés. L'enquête, tenue quelques jours plus tard par le coroner du comté, le docteur Roser Cochon, conclut que Garneau, Saint-Denis Garneau, fut victime d'une crise cardiaque. On sait seulement que, quelques heures avant la tragédie, il s'était plaint de malaise. Et depuis de nombreuses années, il souffrait de troubles cardiaques, en dépit de quoi il ne ratait jamais l'occasion d'exécuter des travaux qui exigeaient de grandes résistances physiques. Il lui arrivait même certains jours, après des randonnées freinées en canot, ou encore après l'exercice qui consistait à remonter le courant à la nage, de rentrer au manoir littéralement exténué, hagard. Il s'imposait ainsi le défi d'aller jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Tout cela relance bien sûr l'hypothèse du suicide, et un an seulement plus tard d'ailleurs, on parlait d'une mort étrange. Le doute s'installe ensuite dans l'esprit d'Albert Béguin, en France, qui dit savoir que, le fondateur d'Esprit, qui dit savoir que sa marche silencieuse de 4 ans après 1839 est allée dans le sens d'une mort probablement volontaire, mais c'est pas vrai. Enfin, Alain Bosquet, grand spécialiste de la poésie québécoise en France, soutient que Garneau est mort de 1000 excès qui équivalent à un lent suicide. Puis à René Garneau et Pierre de Grandpré qui supposent que quelque chose d'autre qu'une crise cardiaque a pu se produire. Mais qu'importe, un homme meurt seul en des circonstances imprécises, dans un paysage à la fois familier et hostile. C'est un poète qui est encore jeune, que l'on savait avoir coupé depuis plusieurs années tout contact, oui, tout contact avec la société, et qui vivait farouche, hautain, dans le silence et dans l'isolement d'un manoir archaïque. Il n'en fallait pas tant pour séduire les imaginations. Et l'impact de cet événement fut tel, et garde encore même aujourd'hui une telle puissance que l'on a pu dire récemment que cette mort avait été le seul acte poétique réussi de Saint-Denis Garneau. C'est ridicule. Mieux encore, nous nous trouvons sans doute ici à l'origine du mythe. C'est Guy Sylvestre qui faisait déjà allusion dans la préface à l'étude de Lévi Fortier. « S'il eût vécu, il eût été moins rapidement illustre, tant il est vrai que la mort donne aux poètes un prestige que la vie elle-même est impuissante à leur procurer. » Simple fait divers pour le journaliste anonyme de l'Action catholique du 26 octobre 43, le drame appartenait déjà au domaine du merveilleux. Et certaines notices nécrologiques ne sont pas autre chose que des récits mythiques dont le poète est le héros, touché par on ne sait quel sortilège. Et nous verrons tout à l'heure comment on considère aujourd'hui Saint-Denis Garneau comme un des plus grands poètes et des plus grands écrivains québécois. J'ai trouvé dans le dossier dont je vous ai parlé au début, un très beau texte de Michel Dassonville. C'est un hommage à Saint-Denis Garneau, qui est paru dans le Laval. C'est un hebdomadaire des cours d'été de français, qui paraissait à Québec autrefois. Je vous lis le texte qui est magnifique. Il y a 50 ans, aujourd'hui on dirait 60, il y a 50 ans, mais à quoi bon fêter l'anniversaire de Saint-Denis Garneau? Faut-il enfouir sous les fleurs et les couronnes, celui qui n'est pas réellement mort? Convient-il de rappeler le souvenir de celui qui ne nous a jamais quittés? Celui dont la mort même n'a été qu'un éclatement, rayonnant, comme l'apothéose d'un feu d'artifice. J'avoue pourtant avoir été longtemps séduit par le mystère qui me semblait entourer la disparition du poète. La lecture du journal, si mutilé soit-il, confirmait pour moi les chuchotements de gens, soi-disant bien informés, qui m'assuraient que le poète, nouvel Icare, s'était encore une fois perdu dans les eaux. Je n'y crois plus. Anne Hébert m'a conté les derniers jours de son cousin. Les longues promenades sur la rivière Jacques-Cartier, l'effort de ramer jusqu'à l'épuisement, le retour au manoir de Sainte-Catherine de Portneuf, la syncope fatale sur la berge. Saint-Denis Garneau est mort d'avoir mené sa vie jusqu'à l'exacerbation, jusqu'à la syncope, jusqu'au vertige, à la réflexion. Il est mort comme il a vécu. Cet élan passionné vers les limites ultimes, cet enthousiasme icarien, anime chacune de ses pages, chacun de ses poèmes, et explique son drame intérieur, car ses horizons que nous voyons immenses lui paraissaient étroits. En vain j'ai voulu de l'espace trouver la fin et le milieu, sous je ne sais quel œil de feu, je sens mon aile qui se casse. Attiré à la fois par la chute incroyable vers Dieu, comme il écrivait, la chute incroyable vers Dieu. J'aime beaucoup ça, au fond. Car la chute incroyable vers Dieu, c'est le dépouillement. C'est l'acceptation de notre solitude qui est celle de chacun d'entre nous. Nous sommes seuls sur cette terre, au fond. Nous tombons en Dieu. Et pour reprendre une expression bien québécoise, nous tombons en amour avec Dieu. Donc attiré à la fois par la chute incroyable vers Dieu et les séductions de la forêt vierge où s'était réfugié, il ne put accepter le compromis qui l'aurait sauvé et qui d'ailleurs tous les jours nous sauve. Spirituelle ou sensuelle, son aventure ne pouvait qu'être absolue. Si Saint-Denis Garneau rêva quelquefois d'aller se reposer dans de larges baies, ce ne furent que tentations éphémères. Son navire était de haut bord, au grand large gisait son empire. Hélas, navire loin du port assablé, comme l'écrit Saint-Denis Garneau, il ne put choisir son cap. J'ai appris, écrit-il à l'un de ses amis, j'ai appris et j'ai senti profondément que la gaieté, la vraie, cette figure de la joie, ce rayonnement du bonheur intérieur sur le monde, que la gaieté et la joie sont des choses bien profondes, sans fond, comme un ciel clair, plus profondes que la douleur elle-même, comme le ciel est plus profond que la mer. Et dans la joie, comme dans le firmament, quand on a dépassé le rayon d'attraction de la terre, on fait une chute incroyable vers Dieu. Cependant que lorsqu'on sombre au fond de la mer intérieure de douleur, au lieu d'être allégé indiciblement et pour ainsi dire immatérialisé, on a sur soi, lourd à nous étouffer, le poids de la vie et comme la multiplication du péché originel. La joie, c'est sombrer en Dieu, et la douleur, c'est sombrer en soi. Je ne connais pas beaucoup de Québécois qui aient écrit d'aussi belles choses. Je le répète. La joie, c'est sombrer en Dieu. Et la douleur, c'est sombrer en soi. Il y a une énorme bibliographie au sujet de Saint-Denis Garneau. Je ne saurais trop vous dire quoi lire. Je vous recommande, si vous avez dans votre bibliothèque Convergence de Jean Lemoyne, vous trouverez à la page 219 Saint-Denis Garneau, témoin de son temps, un texte de quelques pages, lourde de sens et très profonde, absolument admirable. C'est un texte majeur des essais québécois. Vous avez aussi le journal de Saint-Denis Garneau, publié autrefois chez Beauchemin, et qui vient de reparaître dans la Bibliothèque québécoise. Il y a enfin, et surtout, pour aller plus rapidement vers les œuvres, Poèmes choisis de Saint-Denis Garneau, publié chez Fides, et évidemment, les poésies complètes, parues aussi chez Fides. La résurrection et le jour éternel, c'est ce qui compte pour Saint-Denis Garneau. Je ne peux pas terminer cela sans lire dans son journal quelques lignes très belles qui se terminent par une brève prière. Voici. On est souvent vis-à-vis de Dieu comme ces gens que je connais, qui demandent des conseils, les reçoivent en pensant à autre chose, d'un air faussement attentif, et agissent selon l'idée qu'ils avaient auparavant, sans du tout en tenir compte. Aidez-nous à maintenir droite notre intention, mon Dieu. Comme c'est vrai, je le relis parce que c'est tellement vrai, je me reconnais tellement, hein. On est souvent vis-à-vis de Dieu comme ces gens que je connais, qui ne connaissaient pas, mais c'est moi, qui demandent des conseils, les reçoivent en pensant à autre chose, d'un air faussement attentif, et agissent selon l'idée qu'ils avaient auparavant, sans du tout en tenir compte. Et j'aime bien sa brève prière. Aidez-nous à maintenir droite notre attention, Seigneur. Dans la liturgie de ce jour, en ce 24, la messe commence ainsi, « Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. » Je crois que c'est bien le cas de Saint Nigano. Et j'aime bien la première oraison qui est l'une des plus belles de notre liturgie. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et à la lecture, il est écrit que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles et avec Saint Nigano. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur? Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle pénètre les pensées de notre cœur. Et le cœur de Saint Nigano a été dévoré par la présence de Dieu et sa parole et son Eucharistie. Il y a d'ailleurs un très, très, très beau texte sur l'Eucharistie. Je vous en lis deux lignes. Maintenant, ma pauvreté écrasante m'oblige à rechercher cette nourriture. Quel amour incompréhensible Dieu me voue-t-il pour me poursuivre ainsi? Il se sentait poursuivi par Dieu.